pour la plupart d'entre nous, des fois nous lisons le Nouveau Testament, est cité, puis on examine le contexte de l'Ancien Testament. Et franchement, nous n'avons aucune idée du tout pourquoi les auteurs du Nouveau Testament ont cité un tel passage pour prouver un tel point. Quand j'étudiais à l'université de Cambridge, mon Dr. Vater, ainsi parlaient les Allemands, était nommé Barnabas Linders. Son premier livre avait le titre « New Testament Apologetic », l'apologétique du Nouveau Testament. Et sa thèse était bien simple. Les premiers chrétiens voulaient prouver la vérité de leur croyance en ce qui concerne le Christ. Donc, ils ont trouvé des versets ici et là dans l'Ancien Testament, sans regard pour le contexte ou le contenu, mais tout simplement des textes qui semblaient prouver leur point sans vraiment les comprendre. Et ensuite, ils ont cité ces versets comme si ça faisait du bon sens. Mais franchement, l'apologétique du Nouveau Testament, en ce qui concerne la citation de l'Ancien Testament, ça ne fait pas du bon sens du tout. Il y a 16 ans, j'ai écrit mon commentaire sur l'Évangile selon Matthieu. Et quand je l'écrivais, j'ai naturellement examiné bien d'autres commentaires. Un des meilleurs, à la fin du 19e siècle, était écrit par John Broadus. C'est un vraiment bon commentaire, mais presque chaque fois que Matthieu cite l'Ancien Testament, John Broadus a des problèmes. Il n'a aucune idée, assez souvent, pourquoi Matthieu a cité l'Ancien Testament d'une telle façon. Mais il était beaucoup plus pieux et fidèle et humble devant la parole de Dieu que mon Dr. Vater, Barnabas Linders. Donc, à presque chaque instant, il a écrit tout simplement, « Franchement, je n'ai aucune idée ce que Matthieu entend par cela, mais c'est la parole de Dieu, donc on va l'accepter. » Eh bien, c'est bien mieux que l'attitude de mon Dr. Vater, sans doute. Mais ça n'explique pas grand-chose. À mon avis, les deux livres du Nouveau Testament les plus difficiles, les deux livres qui lancent les plus grands défis à cet égard sont Matthieu et l'Épître aux Hébreux. Et ce que nous allons faire à travers ces 10 heures ensemble, nous allons examiner brièvement plusieurs passages de l'Épître aux Hébreux qui citent l'Ancien Testament avec le but de comprendre pourquoi l'auteur a cité l'Ancien Testament de cette façon. Qu'est-ce qu'il avait en tête? Si on présuppose tout simplement que ces auteurs n'étaient pas fous, même si on ne fait pas appel à l'inspiration, malgré le fait que je veux faire un tel appel à l'inspiration, mais même si on fait appel seulement au fait qu'ils ne sont pas fous, qu'est-ce qu'ils ont compris quand ils ont cité ces passages de l'Ancien Testament? Eh bien, nous commençons avec les deux citations que nous trouvons dans Hébreux chapitre 1, verset 5. Hébreux chapitre 1, verset 5. Dans ce passage, verset 5 à verset 13, l'auteur souligne la supériorité de Jésus-Christ aux anges. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » Eh bien, psaume chapitre 2, verset 7, et 2 Samuel chapitre 7. Est-ce que ces versets disent en effet tout simplement que le Christ est déjà appelés fils de Dieu dans l'Ancien Testament, mais les anges ne sont pas appelés fils? Je ne pense pas. Après tout, déjà chez Job, par exemple, les anges ont appelé fils de Dieu. Les anges, les fils de Dieu, se sont présentés devant l'Éternel, même le diable lui-même, le Satan. Et en plus, fils de Dieu, ce titre fait application à plusieurs personnes, non pas tout simplement le Messie. Déjà, dans Exode chapitre 4, l'Éternel dit à Israël, « Tu es mon fils ». Et le roi d'Israël peut être appelé le fils de Dieu. Et même il faut avouer que dans le contexte de ces deux passages, c'est-à-dire Psaume 2 et 2 Samuel 7, il n'y a pas de comparaison dans le contexte avec les anges. Nous trouvons ces deux paroles, sans doute, mais il n'y a pas de comparaison dans ces deux contextes avec les anges. Mais ça devient encore plus difficile que cela. Psaume 2 est cité assez souvent dans le Nouveau Testament. Mais Psaume 2, 7 est cité 3 fois. Deuxième, Hébreux chapitre 5, verset 4 et suivant. Le contexte parle du grand prêtre, du souverain sacrificateur. Comment devenir souverain sacrificateur? Et nous lisons, verset 4, « Nul ne s'attribue cet honneur, mais on y est appelé par Dieu, comme le fut Aaron lui-même. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est donné lui-même la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais c'est celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Encore Psaume 2, 7. Et franchement, le contexte de Psaume 2 ne parle pas de souverain sacrificateur. Et ensuite, une citation de Psaume 110, nous y reviendrons plus tard dans cette série. Troisième citation, Actes chapitre 13, les Actes des Apôtres, chapitre 13. La prédication à Antioche de Pisidie. Surtout verset 32 et suivant. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit au psaume 2, même le passage est nommé. Je vous donne, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Maintenant, en ressuscitant Jésus, est-ce que ça parle de la résurrection d'entre les morts? Oui, certes, verset 34, qu'il est ressuscité d'entre les morts, de sorte qu'il ne retourne pas à la corruption, c'est ce qu'il avait dit, je vous donnerai les choses saintes de David, et ainsi de suite. Donc, selon Luc, Psaume chapitre 2, verset 7, prouve que le Fils doit être ressuscité d'entre les morts. Mais quand même, dans le contexte de Psaume 2, 7, il n'y a pas mention de résurrection. Donc, jusqu'à ce point, nous avons découvert que le Psaume 2, 7 a été cité 3 fois dans le Nouveau Testament pour prouver, premièrement, que Jésus est supérieur aux anges, deuxièmement, qu'il ne s'est pas donné le titre souverain sacrificateur, mais c'est Dieu lui-même qui lui avait donné ce titre, et troisièmement, qu'il devait être ressuscité d'entre les morts. Et apparemment, dans le contexte de psaume 2, le texte du psaume ne parle de ni l'un ni l'autre. comment comprendre ces choses. Et ensuite, psaume 2, 7 est lié dans Hébreux chapitre 1, verset 5, à 2 Samuel chapitre 7, surtout verset 14. Maintenant, nous allons commencer avec 2 Samuel 7. 2 Samuel 7. Nous allons examiner ensemble le contexte de 2 Samuel 7, ensuite le contexte de psaume 2, et ensuite nous allons essayer de découvrir comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux a compris ces passages. 2 Samuel chapitre 7. Sans doute vous vous souvenez de ce passage. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos en le délivrant de tous ses ennemis qui l'entouraient, il dit au prophète Nathan, « Vois donc, c'est moi qui habite dans la maison du cèdre, alors que l'arche de Dieu habite sous la toile de tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Notez bien le contexte. Quand David était devenu roi, son trône était à Hébron. Mais à ce point, maintenant, il est le roi pour les 12 tribus, et maintenant, il a gagné Jérusalem. Et pour la première fois, l'arche de l'Alliance, la tente, le tabernacle, se trouve dans la même ville où se trouve le roi, 2 Samuel chapitre 6. C'est-à-dire, le système de sacrifice et l'autorité du roi se trouve maintenant à Jérusalem, pour la première fois. Ceci est important plus tard dans l'Épître aux Hébreux. Je le mentionne maintenant seulement en passant, mais nous allons trouver que c'est fortement important dans chapitre 9. Maintenant, David, à ce point, peut-être il avait honte que lui se trouvait dans un palais et Dieu lui-même avait comme son soi-disant temple seulement une tente. Et après tout, peut-être il se souvenait des passages dans le livre de Deutéronome qui annonçait d'avance qu'un jour Dieu se manifestera dans un endroit, dans une ville, et tout Israël monterait à cette ville pour l'adorer. Et Nathan lui-même pense que c'est une merveilleuse idée. Or, cette nuit-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan en ces mots, « Va dire à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel. » Pas Nathan, l'Éternel. Eh bien, l'Éternel donne à David plusieurs raisons pour le convaincre que ce n'est pas David qui devait construire ce temple. Premièrement, « Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les Israélites hors d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, mais je me suis déplacé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où je me suis déplacé avec tous les Israélites, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de faire paître mon peuple d'Israël, et je dis, « Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? » Eh bien, ça élève un principe avec une importance extraordinaire. À chaque étape de l'histoire de salut, c'est Dieu et Dieu seul qui prend l'initiative. On ne trouve pas Abraham à la ville d'Our et en prière, il s'adresse à Dieu pour lui dire « Dieu, l'Éternel, j'ai une bonne idée. Franchement, ça prend une nouvelle humanité. je suis prêt à être le père et je suis prêt à te suivre en foi. Et tu peux m'envoyer n'importe où, mais franchement, cette humanité est déjà pas mal corrompue, ça prend une nouvelle. Ce n'est pas qu'Abraham donne une suggestion à Dieu. Dans le temps de Moïse, quand il voulait libérer le peuple, le résultat n'était pas complètement bon. Et quand Dieu était prêt, Moïse n'était plus prêt. Donc à chaque étape de l'histoire de salut, c'est toujours Dieu et Dieu seul qui prend l'initiative, n'est-ce pas? Et donc même à ce point, Dieu dit en effet, même si un temple doit être construit, ce n'est pas toi qui donnes les ordres, ce n'est pas toi qui prends l'initiative. Je ne l'ai jamais exigé et je ne l'exige pas maintenant. Tu dois attendre. Deuxièmement, ce n'est pas David qui doit rendre grand le nom de l'Éternel. C'est plutôt l'Éternel qui rend grand le nom de David. Verset 8 à verset 10. Et finalement, verset 10 et verset 11, c'est Dieu lui-même qui donne le repos. Maintenant, la notion de repos est compliquée. Nous y reviendrons dans Hébreux chapitre 3 et 4. Mais c'est Dieu seul qui donne le repos à son peuple et ce n'est pas à David à décider que le temps de repos était déjà arrivé. Vous vous souvenez du premier verset de ce chapitre. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos. Mais quand même, le repos est relatif. Il y a encore des ennemis à vaincre. Et à ce point, donc, c'est Dieu seul qui établit le repos. Ce n'est pas à David à choisir les temps. Et ensuite, verset 11. L'Éternel, vers la fin, t'annonce qu'il te fera une maison. C'est un jeu de mots. C'est-à-dire, la notion de maison peut inclure le temple, mais peut inclure aussi le dynaste. La dynastie peut inclure la dynastie. Et c'est l'Éternel qui fera une maison pour David, une dynastie. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père. Et lui, il sera pour moi un fils. Voilà le passage cité. Est-ce que ça parle de Jésus? Dans le contexte, certainement pas. Il faut tout simplement lire les prochaines lignes. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. C'est-à-dire, David savait que Dieu pouvait ôter le privilège d'être roi, soit de lui, soit de sa descendance. Il avait déjà vu la faillite de Saül. C'est-à-dire déjà, David craint l'avenir. Saül a bien commencé, n'est-ce pas? Mais c'était David, par le plan de Dieu, qui l'avait remplacé. Qui pourrait donc remplacer David? Ou si pas David, sa descendance. Mais ici, c'est Dieu lui-même qui annonce. Si ton fils commet des fautes, je le corrigerai avec les bâtons des hommes et avec les coups des humains, mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai écarté devant toi. Et ensuite, verset 16, Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Eh bien, à ce point, il faut méditer sur quelques détails. Verset 14. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. Un fils? Fils de Dieu? Cette expression est tellement commune parmi nous, tellement bien utilisée, qu'on n'examine pas cette expression. Comment est-ce qu'ils ont compris cette expression au 10e siècle avant Jésus-Christ? Fils de Dieu? Et Israël, fils de Dieu? Pour nous, aujourd'hui, fils et père, ces notions ont un sens biologique, n'est-ce pas? Nous voulons savoir qui est véritablement le père d'un tel et tel fils. Et on peut le prouver aujourd'hui avec la technologie biologique, n'est-ce pas? Mais dans le premier siècle et dans le 10e siècle avant Jésus-Christ, la notion de fils était liée en partie à la fonction d'un fils. Si je peux vous poser la question, seulement les hommes, premièrement. Combien parmi vous poursuivent le même chemin que vos pères? C'est-à-dire, même ouvrage, votre père est cultivateur, donc vous êtes cultivateur, ou votre père est pasteur, vous êtes pasteur. Combien parmi vous? J'en vois un, peut-être un et demi. Et parmi les femmes, combien parmi vous, vous poursuivez exactement le même chemin que vos mères? Vous voyez? Mais dans l'ancien monde, 98% de toute personne poursuivait les occupations, les chemins, les choix de leurs parents. Si votre père est boulanger, vous devenez boulanger. Si votre père est cultivateur, vous devenez cultivateur. Ça prend une certaine richesse, une certaine indépendance. Ça prend la révolution industrielle pour nous donner la liberté de faire les sortes de choix que nous pensons aujourd'hui sont ordinaires. Donc, l'identité du fils était établie non pas tout simplement par la biologie, mais par la fonction, par l'identité du père. Oh, c'est le fils du charpentier. C'est le fils du cultivateur. Hein? Maintenant, dire à quelqu'un aujourd'hui que c'est le fils du cultivateur, ça ne veut dire rien. Peut-être aujourd'hui, lui, il répare les ordinateurs. Hein? Mais dans le premier siècle, dans le 10e siècle avant Jésus-Christ, être le fils de quelqu'un, en partie, ça établit son identité, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tout simplement une question d'identité en théorie, mais le fils, si le père est cultivateur, le fils apprend son métier de son père. C'est-à-dire, il sait comment cultiver la terre, il sait comment donner l'irrigation, il sait quoi faire comme cultivateur, parce qu'il l'apprend de son père. Aujourd'hui, on n'apprend presque rien du point de vocation de nos pères. Nous allons à l'école, nous allons à l'université, n'est-ce pas? Mais de tout apprendre de nos pères, c'est presque pas croyable aujourd'hui. Donc, notre identité, notre bien-être tel que fils est établi par la famille dans laquelle nous nous trouvons. Donc, quand Dieu dit à Israël, Exode chapitre 4, « Israël est mon premier-né, Israël est mon fils », c'est parce que Israël devait refléter les valeurs, les caractéristiques de famille de Dieu. Et nous trouvons donc plusieurs expressions dans la Bible qui reflètent la même manière de penser. Par exemple, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés quoi ? Fils de Dieu. » C'est-à-dire, c'est Dieu surtout qui est la personne centrale qui procure la paix. Et si nous procurons la paix, nous agissons comme Dieu. Donc, à cet égard, nous représentons comme fils de Dieu. Ça ne veut pas dire c'est en procurant la paix que nous devenons sauvés ou que nous devenons établis devant lui ou que nous devenons fils de Dieu dans le sens de Jean 3. Mais ça veut dire tout simplement que nous reflétons en réalité une des caractéristiques de Dieu. Par contre, dans Jean chapitre 8, les Juifs du temps de Jésus se disaient la descendance d'Abraham. Et Jésus leur dit, oui, je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais franchement, vous n'agissez pas comme les fils d'Abraham. Vous agissez comme ton père, comme votre père. Et donc, ils ont dit, eh bien, nous n'avons qu'un père, Dieu lui-même. Pas possible, Jésus dit, en effet, parce que je connais le Père, et vous ne me connaissez pas, donc nous n'avons pas le même Père. Vous agissez comme votre Père. C'est le diable lui-même. Vous voulez me tuer, il est meurtrier dès le début. Vous ne dites que des mensonges à mon égard, et il est menteur dès le début. Donc votre Père, c'est le diable lui-même. Maintenant, ce n'est pas parce que Jésus pense que le diable s'est couché avec leur mère. Ce n'est pas quelque chose d'organique ou biologique. C'est une question de fonction. S'ils agissent comme le diable, donc ils sont les fils du diable. Hein? Et si nous agissons comme Dieu, nous sommes les fils de Dieu. C'est une question de fonction. Et même pour Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, le titre « fils de Dieu », premièrement, ne parle pas de l'ontologie de la Sainte Trinité, mais premièrement, du fait qu'il reflète complètement ce que le Père fait. Étudiez, quand vous avez le temps, Jean chapitre 5, versets 16 à 30. La chose remarquable en ce qui concerne le fait que le Christ est le Fils de Dieu, c'est que tout ce que le Père fait, le Fils fait aussi. Maintenant, je ne peux pas dire cela. Peut-être je peux procurer la paix ici et là, et à cet égard, je suis donc le Fils de Dieu. Mais je n'ai jamais créé un univers. Jamais. Mais le Fils par excellence, lui, il a créé. Il était en effet l'agent de Dieu lui-même dans la création de l'univers. Ce n'est pas moi qui va ressusciter d'entre les morts tout le monde au dernier jour, mais si Dieu ressuscite les morts, le Fils ressuscite les morts. C'est-à-dire, tout ce que le Père fait, ce Fils fait aussi. C'est pour cette raison qu'il est le Fils unique, le Fils par excellence. Et donc, il y a une ontologie derrière ces fonctions. Mais quand même, dans Jean chapitre 5, verset 16 à 30, c'est surtout le fait que le Fils fait tout ce que le Père fait qui établit son statut comme fils de Dieu. Eh bien, pour cette raison donc, dans l'Ancien Orient, dans plusieurs tribus, non pas tout simplement chez Israël, quand quelqu'un devenait le roi de ce peuple, parce que c'était en réalité le Dieu qui était en charge, on pensait. Donc, le roi devenait le fils de ce Dieu. Et ça, c'est le langage qu'on trouve ici dans 2 Samuel, chapitre 7 et verset 14. C'est-à-dire, « Moi-même, je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. » Quand le fils de David devient le roi, il devient en effet le fils de Dieu. Parce que comme roi, il doit refléter l'autorité, la justice, la bienveillance, l'alliance de son Père, c'est-à-dire de Dieu. Donc, il devient le fils de Dieu. Dans un sens, Israël était le fils de Dieu, déjà Exode chapitre 4. Mais dans un sens plus serré, le roi lui-même devient le fils de Dieu lorsqu'il devient, en effet, le roi. Il reflète les valeurs, les caractéristiques, les attributs de son Père, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Deuxième chose à noter, malgré le fait que chapitre 7, verset 14b fait référence à Salomon, certes, quand même nous lisons verset 16, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. » Si nous prenons au sérieux une telle promesse, ça veut dire soit qu'après chaque roi davidique, il y aurait un autre roi davidique, et ensuite un autre roi davidique, et ensuite un autre roi davidique, jusqu'à la fin du monde. Ou, ce n'est pas mentionné ici, mais autre possibilité, un jour, un roi davidique qui ne cesserait jamais, qui ne périrait jamais, ce n'est pas mentionné ici. Mais si on prend au sérieux la promesse que jamais on ne perdrait pas de la famille de David, le trône d'Israël, il n'y a pas d'autre possibilité. Et plus tard, déjà chez Ésaïe, par exemple, vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, dans des paroles que nous lisons, que nous citons chaque Noël, nous lisons « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. » Verset 6 « Renforcez la souveraineté et donnez une paix sans fin au trône de David et à son royaume. » Ça parle encore de la descendance davidique, n'est-ce pas? Mais à la fois, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Des attentes qui sont maintenant plus élevées que les attentes qu'on trouve dans 2 Samuel chapitre 7. Et encore, Ézéchiel, chapitre 34, maintenant 6e siècle avant Jésus-Christ. Un passage contre les bergers, les chefs d'Israël. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise et dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux bergers d'Israël, et ainsi de suite. » Et ensuite, à peu près 25 fois, l'Éternel lui-même dit, « Je serai le berger d'Israël. C'est moi qui vais les paître. Vous ne faites pas paître les brebis. » Mais c'est pourquoi, verset 7, « Berger, écoutez la parole de l'Éternel. » Et ensuite, « Me voici contre les bergers. » Et ensuite, « C'est moi-même qui prendrai soin de mes brebis et j'en ferai la revue. » Comme un berger fait la revue de son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparsées, ainsi je ferai la revue de mes brebis. À peu près 25 fois, c'est l'Éternel lui-même qui parle ainsi. Et enfin, verset 23, « J'établirai sur eux un seul berger qui lui fera paître mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur berger. » C'est-à-dire, après 25 occasions quand l'Éternel lui-même a dit « Je serai le berger, il établit David comme le berger. Comment comprendre ces choses? Déjà au 6e siècle. C'est-à-dire, déjà dans l'Ancien Testament, on trouve des attentes davidiques qui sont de plus en plus élevées à travers l'histoire du salut. Eh bien, 2 Samuel chapitre 7, est-ce que nous avons donc assez bien compris ce chapitre dans son contexte? Psaume 2. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Il rit. Celui qui siège dans les cieux, le Seigneur, se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère, et dans sa fureur, il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Donc, c'est Dieu qui parle dans les premiers versets. Maintenant, c'est le roi qui parle. Je publierai le décret de l'Éternel. Quel décret? Le décret par lequel il est devenu le roi. Après tout, verset 6, c'est Dieu lui-même qui a dit, « C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Et maintenant, le roi davidique parle de même façon. « Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, « Tu es mon fils. » C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, la date où il était établi comme roi d'Israël, par le décret de l'Éternel. Vous voyez? Ce n'est pas engendré d'un sens physique ou la nouvelle régénération, la nouvelle naissance. C'est une manière de parler comme nous avons déjà découvert dans 2 Samuel chapitre 7, c'est-à-dire le jour du décret de l'Éternel qui établit ce roi davidique comme roi, c'est le jour où cet homme devient, en effet, le fils de l'Éternel. Tu es mon fils, par le décret de l'Éternel. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. Et maintenant, roi, ayez-les du discernement, recevez instruction, juge de la terre, servez l'Éternel avec crainte, soyez dans l'allégresse en tremblant, et ainsi de suite. Maintenant, de qui est-ce que ça parle? Sans doute, ça parle d'un roi davidique. Davidique, sans doute. Après tout, Dieu donne son décret en ce qui concerne son roi sur la montagne, sur Sion. C'est le roi davidique qui est en vue. Est-ce que c'est un roi davidique ordinaire? C'est-à-dire, soit David lui-même, soit Salomon, soit un des autres rois de l'Ancien Testament? C'est possible. Mais la terminologie qu'on trouve dans ce psaume est un peu généreuse. Notez bien, maintenant, verset 8, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. » Est-ce que les nations sont seulement les nations autour d'Israël? Presque possible. Et pour possession les extrémités de la terre, Eretz en hébreu. Est-ce que ça veut dire seulement la terre d'Israël ou toute la terre? Les extrémités de la terre, malgré le fait qu'il y a des personnes qui veulent dire que c'est seulement Israël qui est en vue. Franchement, le langage est tellement généreux que ça fait plus de sens si on accepte que les nations de la terre, les extrémités de la terre, ça inclut tout. Mais quand même, des fois dans l'Ancien Est, dans l'Ancien Orient, il y a ces acclamations vers le roi qui sont un peu généreux. Hyperbole. Hein, on dit hyperbole, oui. Peut-être c'est seulement cela. Ou est-ce qu'il faut prendre le langage comme des promesses? Ça fait partie de tout un train d'attente qui mène vers l'avenir. Ça parle du roi davidique. Mais jusqu'à ce point, nous n'avons pas besoin de choisir jusqu'à ce point. À ce point, la seule chose que je veux souligner, c'est le fait que le roi davidique devient le Fils de Dieu par le décret de l'Éternel qui l'établit comme roi. Est-ce clair? Donc, la citation que nous trouvons dans Hébreux chapitre 1, verset 5, la citation de Psaume 2, la citation de 2 Samuel 7, les deux occasions touchent la question de devenir roi. Est-ce que nous sommes en accord maintenant en ce qui concerne le contexte de l'Ancien Testament? Revenons donc maintenant à Hébreux. Je n'ai pas encore touché les anges ou la résurrection d'entre les morts ou grand sacrificateur. Mais il faut premièrement essayer de comprendre ces textes dans leur contexte de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Maintenant, si ces deux passages parlent du fait que le roi davidique devient roi, il faut au moins penser un peu sur la question Jésus comme roi, le règne de Dieu. Comment est-ce que le Nouveau Testament en général parle du règne de Dieu? En général, c'est une simplification, mais en général, on peut diviser la christologie du Nouveau Testament en deux modèles. Maintenant, la christologie, par cela, je veux dire tout simplement la doctrine du Christ. Dans le 20e siècle, plusieurs livres ont été écrits sur la christologie qui examine tout simplement les titres différents du Christ. Le Christ est le Fils de Dieu. Le Christ est le Fils de l'homme. Le Christ est le Messie. Le Fils est le roi d'Israël, et ainsi de suite. Et donc, plusieurs livres parlent d'un Fils de l'homme christologie, ou une christologie de Fils de Dieu, comme s'ils avaient des communautés séparées, indépendantes du premier siècle, qui adoptaient une espèce de christologie liée seulement à un titre. Donc, quelques Juifs croient que Jésus était le Messie, d'autres personnes croient que Jésus était le Fils de Dieu. Mais dans ces livres écrits dans le 20e siècle, c'était plutôt rare que quelqu'un voulait poursuivre l'argument que pour tout chrétien, Jésus était à la fois le Messie, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le roi d'Israël, et ainsi de suite, hein? Donc, nous sommes accoutumés, si nous lisons les commentaires du dernier siècle, si nous examinons ces livres qui touchent la doctrine de Christ, la christologie, nous sommes accoutumés à la présupposition qu'il y a une grande série de christologie. Il n'y a pas une christologie du Nouveau Testament, mais une grande série de christologies. Franchement, du point de vue historique, je n'ai pas grand patience avec cette idée. Il me semble que ça ne fait pas du bon sens du tout. Mais au risque d'être trop simpliste, on peut diviser les christologies du Nouveau Testament en deux. Il y a un modèle comme ceci. Par exemple, dans le commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est-à-dire la parole était le copain de Dieu et l'identité de Dieu. Il était avec Dieu et il était Dieu. Et la parole est devenue chair. Et ensuite, il est mort sur la croix. Il est ressuscité d'entre les morts. Thomas le confesse, mon Dieu. Et il retourne à la gloire qu'il avait avec le Père avant le commencement du monde. Nous trouvons aussi cette christologie dans l'Épître aux Hébreux, dans Colossiens chapitre 1. On le trouve assez souvent dans le Nouveau Testament. Et c'est bien présupposé à maintes reprises. C'est-à-dire, le Fils, l'Éternel, parole, est descendu, il est devenu homme, il est mort. Puis ensuite, Dieu l'a justifié. Dieu l'a justifié et maintenant il est retourné à la gloire qu'il avait avec le Père avant la création du monde. Par contre, assez souvent dans le Nouveau Testament, on commence tout simplement ici en bas. Ce n'est pas parce que les choses qui sont arrivées avant son humanité sont niées. Elles ne sont seulement pas touchées, pas traitées, surtout chez Luc Acte. Chez Luc Acte aussi, quand même, il y a la pré-incarnation, mais ce n'est pas souligné comme c'est souligné, par exemple, chez Jean ou chez Colossiens. On commence ici en bas. Il y avait cet homme Jésus qui faisait du bien, qui faisait des miracles, qui prêchait, et ainsi de suite. Ensuite, il est mort comme serviteur souffrant, et Dieu l'a justifié, et maintenant il est à la droite de Dieu. On commence ici, puis on monte jusqu'en haut. Mais dans les deux cas, le point tournant, c'est ici en bas. Quand est-ce que Jésus est devenu roi? C'est une question extrêmement difficile à poser ou à y répondre. Dans un sens, Jésus est né roi. Ça, c'est présupposé dans Matthieu chapitre 2. Où se trouve la personne qui est née roi des Juifs? C'est la question posée par les mages, n'est-ce pas? Et s'il était un avec Dieu dans l'éternité passée, mais certes, il était déjà le roi. Mais quand même, il est né le roi dans son humanité. Dans un autre sens, il entre dans sa ministère vers l'âge de 30 ans. L'Esprit Saint descend sur lui, commence à faire des miracles et il commence à prêcher le royaume de Dieu. Dans un certain sens, le royaume de Dieu vient avec les miracles et la prédication de ses disciples. Luc chapitre 12, j'ai vu Satan, j'ai vu le Satan tomber, qui tombe du ciel, hein? Dans un autre sens, un sens rempli d'ironie, Jésus règne sur la croix avec une couronne d'épines. Il est le roi, mais il meurt comme un criminel. Dans un autre sens, il entre dans sa gloire, il retourne à son Père, il est assis à la droite de Dieu. Et maintenant, 1 Corinthiens 5, par exemple, 15, par exemple, insiste que toute la souveraineté de Dieu est médiée par Jésus-Christ lui-même. Toute la souveraineté de Dieu est exprimée par Jésus-Christ lui-même. Et dans Matthieu chapitre 28, toute autorité m'a été donnée dans les cieux, sur la terre, vous voyez? Toute l'autorité, c'est déjà aujourd'hui que Jésus règne. Il est déjà le roi. Le royaume a déjà débuté, n'est-ce pas? Dans un autre sens, un jour, les royaumes du monde deviendront le royaume de Dieu et de son Fils, de celui qui est assis sur le trône et de l'agneau. Mais c'est bien évident, même avec cette esquisse, que le point tournant, c'est la mort, la résurrection, l'ascension de Jésus-Christ lui-même à la droite de l'Éternel, afin que toute l'autorité de Dieu lui-même soit exprimée par Jésus-Christ, soit médiée par Jésus-Christ. À cause de ce qu'il a accompli sur la croix, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Donc pour les chrétiens qui lisaient Matthieu ou Marc ou Luc et Jean ou Paul ou l'auteur de l'Épître aux Hébreux, pour les premiers chrétiens, quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, quand il était justifié par Dieu, quand il est retourné à son Père, à ce point, il entrait dans son royaume. À ce point, toute l'autorité de Dieu passe par Jésus-Christ, c'est médié par Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, dans ce sens, c'est à ce point aussi qu'il devient le Fils. Oh, dans un autre sens, il est déjà le Fils, c'est bien évident. Et Dieu envoie son Fils, Jean chapitre 3, verset 17, parce que, après tout, il était déjà un avec le Père dans l'éternel passé. Donc, même l'expression Fils de Dieu est un peu flexible quand ça fait référence à Jésus dans le Nouveau Testament. Ben, dans le sens qu'il entre dans son royaume, comme celui qui est maintenant le médiateur de royauté divine. Dans ce sens, il entre dans son appel comme roi davidique, qui est à la fois fils de Dieu dès l'éternité. Donc, si 2 Samuel chapitre 7, 14 et psaume 2 deviennent en effet des formules pour établir le roi davidique, ces applications, ces versets s'appliquent autant à Jésus quand il entre dans son royauté davidique que quand ils font application soit à David ou un autre roi devant lui. C'est une des raisons pour laquelle dans le Nouveau Testament, souvent des passages qui mentionnent David sont appliqués à Jésus. Ce qui arrive à David doit être répété, en effet, au fils de David jusqu'à la fin, surtout le fils par excellence. Nous reviendrons à ce point plus tard. Mais les formules qui établissent David comme roi d'Israël établissent en effet aussi la descendance de David qui deviennent roi d'Israël, s'y inclut le Messie lui-même, qui un jour devient en effet le Fils de l'Éternel, dans le sens qu'il devient le roi davidique, avec toute l'autorité davidique comme roi d'Israël. Maintenant, nous allons jusqu'à quelle heure maintenant avant? Encore un quart d'heure. On va prendre une pause pour quelques questions avant de prendre les prochaines étapes. C'est de matériel suffisamment concentré que je veux que vous me suivez pour la prochaine étape. C'est le temps d'une pause, sans doute.